pour votre info est présenté par Desjardins.
Pendant que la Russie gagne du terrain en Ukraine, l'Occident la punit sévèrement, avec un attirail de sanctions économiques dont l'ampleur n'a jamais été vue jusqu'à maintenant. En 2022, une guerre se gagne autant en bloquant les transferts bancaires qu'en lançant des bombes, semble vouloir dire les pays occidentaux. Mais quel est le vrai pouvoir des sanctions? Et auront-elles des impacts sur l'économie canadienne? Je m'appelle Laurent Therrien. Bienvenue à cette émission spéciale de Pour votre info sur les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Bonjour à tous. Deux jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays occidentaux ont répondu avec leur propre salve, des sanctions économiques puissantes, encore jamais utilisées contre une grande économie mondiale. Tellement puissantes, en fait, qu'elles ont amené le président russe Vladimir Poutine à brandir la menace nucléaire. La mise au rencard, évidemment, de la 11e économie au monde est sans précédent et va avoir des conséquences partout dans le monde. Plus tard, à l'émission avec l'économiste principal de Desjardins, Francis Généreux, on va justement regarder les implications que ces sanctions peuvent avoir ici au Canada. Mais d'abord, je vous propose qu'on brosse le portrait des sanctions qui ont été imposées dans la dernière semaine et surtout leur impact sur l'économie mondiale avec Frédéric Mérand. Salut Frédéric.
Bonjour.
Frédéric, tu es le directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CIRIUM. Pour ceux qui le connaissent, tu es professeur de sciences politiques à l'UdeM. Tes travaux portent, et ça tombe bien, justement sur la sécurité mondiale et sur l'économie politique européenne. On va commencer, si tu veux, par le plus gros missile économique, si tu peux me permettre l'expression, lancé par l'Occident cette semaine, c'est-à-dire l'interdiction de toute transaction avec la Banque centrale russe. Dis-moi pourquoi d'abord c'est aussi important comme sanction?
C'est important parce que l'idée de la Russie et de Vladimir Poutine, c'était d'avoir beaucoup de réserves, plus de 600 milliards de réserves qui lui permettraient de durer longtemps pendant les sanctions d'autres natures. Donc, par exemple, le fait de ne plus pouvoir exporter certaines marchandises ou en importer d'autres. Et en bloquant comme ça l'accès de la Banque centrale russe à une partie, finalement, de ses réserves, celles notamment qui sont à l'étranger, on réduit la capacité d'achat de la Russie et surtout la capacité de la Banque centrale de soutenir le rouble russe, la monnaie nationale de la Russie, qui est en chute libre depuis quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais que les consommateurs, que les retraités en Russie ont de moins en moins les moyens de se procurer tous les biens auxquels ils avaient d'habitude accès. Pour les plus modestes, par exemple, les biens de consommation de base, typiquement téléphone portable. Pour les plus riches, évidemment, ça veut dire les produits de luxe. Et donc, l'idée, c'est vraiment de miner ou de détruire la principale défense économique que c'était donner la Russie, c'est-à-dire ces fameuses réserves qui avaient été accumulées au cours des années grâce aux exportations d'hydrocarbures.
Oui, qui étaient détenues à l'extérieur du pays pour pouvoir justement répondre à de futures tensions avec l'Occident. Bon, à quel point est-ce que ça fonctionne? À quel point est-ce qu'il y a des impacts sur l'économie russe? Tu disais justement que le rouble s'était effondré. Je lisais il y a quelques minutes à peine que la Russie est en défaut de paiement d'un remboursement de 29 milliards de dollars américains sur sa dette. Donc, la Russie est pratiquement, là, sous toute frais pratique, en faillite. On peut donc s'entendre pour dire qu'il y a des impacts concrets, là.
Oui, puis au moment où on se parle, tout ça n'a commencé qu'il y a 3 jours. Hein? Et donc, lorsqu'on a commencé à parler de sanctions, à la fois le président américain et les dirigeants européens disaient « On est conscient que les sanctions, ça va prendre du temps avant qu'on en voit les effets. » Or, avec notamment cette action contre la Banque centrale russe que, franchement, peu de gens avaient vu venir, moi, je n'étais pas du tout au courant qu'il était possible d'intervenir de cette manière-là, les effets sont immédiats. Ils sont massifs et ils s'ajoutent à ce qui avait déjà fait dévaluer le rouble et qui a fait chuter, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, la place financière, la bourse en Russie. Donc oui, les effets économiques sont déjà à court terme très importants et ils vont probablement s'accentuer au fur et à mesure.
Cela dit, depuis l'invasion de la Crimée, puis dis-moi si je me trompe, en 2014, la Russie, Vladimir Poutine lui-même a fait très attention pour essayer de laisser la Russie à l'écart des systèmes monétaires puis des systèmes économiques occidentaux pour justement éviter que d'éventuelles sanctions puissent avoir autant d'effet qu'il ne l'avait eu en 2014. À quel point est-ce qu'il a réussi? À quel point est-ce que la Russie est encore dépendante économiquement du reste du monde, de Frédéric?
Je pense que si on regarde l'économie de la Russie en général, que ce soit, par exemple, le numérique, les systèmes de paiement, toutes les infrastructures, c'est un pays qui est depuis quelques années à moitié dans la mondialisation, puis à moitié dans, disons, la souveraineté nationale.
Ouais.
Et donc, si on prend les systèmes de paiement, oui, la Russie a développé ses propres systèmes de paiement, mais il y a encore des millions de Russes qui utilisent Apple Pay ou des systèmes de paiement occidentaux. Si on regarde Internet, oui, la Russie a développé ses propres systèmes de messagerie ou de réseaux sociaux, mais il y avait, jusqu'à tout récemment, encore beaucoup de Russes qui utilisaient les réseaux numériques occidentaux. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vrai que la Russie, depuis 2014, a développé un attirail qui lui permet d'être en partie plus indépendante qu'elle ne l'était il y a 10 ans des marchés mondiaux. Mais ce n'est pas non plus la Chine, ce n'est pas non plus un pays qui est en mesure, pas d'être autosuffisant, mais qui a développé vraiment des ressources critiques, des infrastructures critiques qui lui sont propres. Ce n'est pas non plus les États-Unis, c'est-à-dire un grand marché qui est presque autosuffisant. Donc la Russie est un pays, par exemple, dont les échanges économiques et financiers avec le reste de l'Europe étaient très intégrés. Puis là, on n'a pas encore parlé de l'énergie, mais je suis sûr qu'on va...
Venons-y tout de suite. Tu me voyais venir. La Russie est évidemment un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole, de gaz. Les sanctions occidentales, puis ça c'est fondamental, ne touchent pas jusqu'à maintenant le secteur de l'énergie. Pourquoi?
Bon, d'abord, je pense qu'il faut rappeler que les Européens, les Occidentaux sont allés déjà beaucoup plus loin que ce que personne n'aurait prévu il y a encore 10 jours. Rappel très court, les Allemands, dont tout le monde disait qu'ils n'allaient pas suspendre le fameux gazoduc Nord Stream 2, l'ont fait. Les Européens, dont tout le monde disait qu'ils allaient s'opposer à l'idée d'exclure les banques russes de SWIFT, l'ont fait. Donc, les sanctions sont quand même vraiment massives. Mais il reste effectivement cette question qui est celle de l'énergie. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. On pourrait dire que l'énergie, c'est un petit peu la dernière munition ou la dernière carte dans la manche dont vont disposer les Européens. C'est-à-dire que le jour où ils auront bloqué les importations de gaz, ils n'auront plus aucune autre sanction à appliquer à la Russie. Donc, il n'est pas déraisonnable de vouloir garder cette sanction en dernier. Par ailleurs, évidemment, la sanction énergétique, c'est vrai qu'elle ferait très mal à la Russie puisqu'elle la priverait des devises étrangères dont elle a besoin, mais elle ferait aussi très, très mal aux consommateurs et aux ménages en Europe.
Mais oui.
Or, nous sommes en hiver. Hein? On est encore début mars, il fait froid. Donc, ça veut dire que le gaz est très important. Ce que ça veut dire, c'est que si le gaz devient moins important, si par exemple d'autres pays, pensons aux pays du Golfe ou à l'Amérique du Nord, sont en mesure de combler en partie les besoins de l'Europe, à ce moment-là, l'Europe va être dans une meilleure position pour adopter des sanctions énergétiques si elle a besoin de le faire. Mais il est possible aussi qu'il n'y ait jamais de sanctions sur l'énergie, que le gaz continue à couler. Et j'aime toujours rappeler que pendant toute la guerre froide, l'Union soviétique a continué à fournir l'Europe en gaz. Donc, c'est comme rester un peu un territoire protégé ou un secteur protégé plutôt.
Ouais, c'est intéressant ça. Puis ça montre la dépendance, je pense à l'Allemagne notamment, la forte dépendance de l'Occident envers la Russie encore dans ce secteur particulier qui est l'énergie. C'est à se demander comment même l'Occident pourrait ne pas vivre de conséquences économiques graves s'ils imposaient ces sanctions-là.
Oui, mais un peu comme la Russie avait commencé à se préparer en essayant de diversifier ses clients, notamment vers la Chine, l'Europe a aussi commencé à se préparer, notamment en créant des interconnexions en Europe qui permettent, par exemple, à un pays comme l'Allemagne ou la France qui recevrait du gaz de l'Algérie ou de la Norvège, de le redistribuer vers d'autres pays européens. Mmh. Et évidemment, l'Europe a aussi tout un plan d'action climatique qui vise à terme à diminuer sa dépendance du gaz. Mais à court terme, c'est vrai qu'ils ont besoin de beaucoup de gaz. Et ça a un impact sur l'économie très réel. L'inflation aujourd'hui en Europe s'explique en bonne part par l'augmentation des prix de l'énergie. Donc, la situation est un peu différente de celle qu'on connaît en Amérique du Nord. Mais même en Amérique du Nord, il peut y avoir un impact parce que là, on a parlé du gaz, mais il y a le pétrole. Et si les cours du pétrole augmentent, même si au Canada, évidemment, on n'importe pas de, de pétrole russe, aux États-Unis, pas vraiment non plus, mais si le cours mondial augmente, évidemment, ça va avoir un impact un petit peu partout.
Oui, puis je suis sûr que Francis nous en parlera dans quelques minutes par ailleurs. Je t'amène à l'intersection entre la politique, le milieu des affaires et l'économie. Il y a plusieurs grandes multinationales au cours des derniers jours qui ont décidé de retirer tout investissement en Russie. Je pense à BP, je pense à ExxonMobil, je pense à Apple, je pense à Disney. Les fabricants Airbus et Boeing ont décidé de cesser aussi d'envoyer des pièces de rechange d'avions en Russie. Pourquoi les grandes multinationales font ça? Est-ce que c'est pour s'assurer de respecter les sanctions économiques?
Regardez une carte des pays qui, aujourd'hui, nous sommes le 3 mars, ont approuvé la résolution non contraignante des Nations Unies qui condamne l'agression de la Russie en Ukraine. C'est la vaste majorité des nations du monde qui ont approuvé cette résolution. Il y a beaucoup de pays qui se sont abstenus. Par exemple, des pays d'Afrique subsaharienne, comme l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, Cuba. Il n'y a que 4 États dans le monde, la Syrie, l'Érythrée, la Corée du Nord et la Biélorussie.
Des gens très fréquentables, n'est-ce pas?
Qui ont voté contre cette résolution. Donc, moi, je ne suis pas PDG d'Apple, mais en termes réputationnels, je pense que le monde a essentiellement pris son camp, choisi son camp, je devrais dire.
Ouais. La question fondamentale, Frédéric, c'est qu'est-ce que ça donne? Est-ce que l'ensemble de ces sanctions-là, est-ce que le retrait des investissements directs étrangers par les entreprises étrangères, est-ce que le retrait de SWIFT, l'asphyxie de la Banque centrale russe peuvent vraiment arrêter la guerre?
Arrêter la guerre, non, mais changer la donne de manière très importante, oui. Bon, d'abord, cette liste de sanctions, et tu n'as évoqué que quelques-unes d'entre elles, elle est très longue et elle ne se limite pas à l'économie. Ce qu'on observe en ce moment, c'est le plus grand régime de sanctions visant à isoler un grand pays. La Russie, c'est un pays très important, tu l'as mentionné en introduction, la 11e économie du monde, ouais. La 2e puissance militaire du monde. Donc, ce pays va être complètement isolé sur le plan économique, sur le plan diplomatique et même sur le plan culturel et sportif pendant un certain temps. Donc, ce n'est pas rien. Évidemment, là, je mets entre parenthèses le rôle que va jouer la Chine qui n'est pas clair à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la Chine, d'un côté, soutient un petit peu la Russie, en tout cas refuse de condamner la Russie. De l'autre côté, veut rester un peu en retrait. On a l'impression qu'ils vont souffler le chaud et le froid. Mm-hmm. Et le comportement de la Chine va être déterminant parce que si la Russie peut compter sur la Chine, ce n'est pas du tout la même situation que si elle est véritablement isolée. Mais bon. On va dire que c'est un régime de sanctions vraiment, vraiment massif et les effets sur la Russie vont être déterminants. Après, à l'évidence, Vladimir Poutine savait que des sanctions importantes allaient être appliquées contre la Russie. Joe Biden l'en avait averti et il a décidé d'envahir l'Ukraine quand même. Ça veut dire qu'il était prêt à accepter des coûts économiques énormes pour réaliser son objectif essentiellement décapiter le gouvernement ukrainien. Ce qui va être important à observer dans les prochaines semaines, et je ne pense pas qu'on puisse connaître la réponse maintenant, c'est deux choses. D'abord, sur le terrain en Ukraine, est-ce que les forces russes vont réussir à prendre le contrôle de l'Ukraine très rapidement et à renverser le gouvernement, ou vont-elles s'enliser en Ukraine? Ça va avoir un effet sur les décisions, évidemment, au Kremlin. Et en Russie, moi, je ne suis pas un observateur de la société russe, mais je constate que cette guerre menée par Poutine, jusqu'à maintenant, ne semble pas jouir d'un soutien enthousiaste, comme on peut voir parfois dans ce type de guerre. Il y a beaucoup d'opposition dans la rue, il y a beaucoup de membres de l'élite qui émettent des réserves. Et donc, en fonction du succès perçu ou de l'échec de cette guerre, évidemment, le calcul change pour Vladimir Poutine et donc l'effet de ces sanctions change. Mais je conclurai simplement en disant que on ne peut pas empêcher un pays qui est déterminé à mener une guerre de la mener par des sanctions. On peut juste rendre ce calcul extraordinairement mauvais et faire en sorte que la Russie sortirait presque aussi épuisée de l'épreuve que l'Ukraine, qui risque, elle, évidemment, de subir l'essentiel des conséquences.
Oui, puis on a bien beau parler depuis une dizaine de minutes de l'impact de sanctions économiques, ça ne battra jamais l'impact sur les vies qui ont été complètement bouleversées en Ukraine. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Cela dit, on peut s'imaginer que Vladimir Poutine, d'une certaine manière, aujourd'hui, quelques jours plus tard, se dit « Si j'avais su que le rouble en prendrait pour 40 %, si j'avais su que je ne serais pas capable de faire un paiement de 29 milliards de dollars sur ma dette, peut-être que j'aurais pris des décisions différentes. » Est-ce que tu penses, puis on va se quitter là-dessus, que l'impact pourrait être sur les guerres futures, c'est-à-dire que l'effet dissuasif des sanctions économiques qu'on voit contre la Russie pourrait servir de test pour d'autres nations qui ont des buts similaires?
Ou pour la Russie elle-même, absolument. Donc l'idée, je pense, à l'heure actuelle, c'est malheureusement moins de sauver l'Ukraine, ou en tout cas toute l'Ukraine, mais de s'assurer que ça ne soit pas un précédent, que ça ne donne pas des idées à d'autres, que ce soit la Chine à l'endroit de Taïwan ou la Russie, qui est dans un état en ce moment de belligérance telle qu'on en est venu à se demander si elle ne pourrait pas s'attaquer à d'autres pays voisins, y compris des pays membres de l'OTAN. Donc là, il y a effectivement un message très fort qui est lancé par les alliés et au-delà des alliés, une bonne partie de la planète à l'endroit du régime de Poutine.
Frédéric, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci parce qu'on sait que tu es hyper sollicité depuis les derniers jours. Merci d'avoir pris du temps pour nous.
C'est toujours un plaisir de te retrouver, Laurent.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux.
Bonjour Francis.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre Frédéric Mérand sur les conséquences internationales du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais on vit dans un monde hyper connecté et ce qui se passe au fin fond de l'Europe a évidemment des conséquences sur ce qui se passe au Canada aussi. Comment ce conflit-là nous affecte-t-il chez nous? Est-ce que c'est au niveau des prix de l'énergie qu'on pourra voir le plus grand impact, comme le laissait sous-entendre Frédéric?
Ça va être probablement une grande partie de l'effet va venir, oui, des prix de l'énergie, des prix en général, mais on le voit, là, les prix du pétrole sont passés facilement au-dessus du 100 $ dans les deux derniers jours. On était à 75 $ peut-être, le prix du pétrole en dollars américains en début d'année. Donc, c'est quand même une forte hausse qui se manifeste aussi les prix de l'essence. Donc, oui, sous les prix, dans une situation qu'on a déjà parlé ensemble, où est-ce que l'inflation est déjà problématique. Donc, ça va être un facteur important.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que tu vois à venir sur l'économie canadienne? Tu sais, bon, on ne peut pas passer sous silence que la Banque du Canada vient tout juste d'hausser son taux directeur. Ce n'est pas nécessairement lié parce que la Banque du Canada avait déjà dit qu'elle le ferait, mais quand même, la notion des prix, là, de manière générale dans l'économie, inquiète. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres impacts?
Oui, bien, il y a plusieurs canaux qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait voir ici les conséquences de ce qui se passe en Ukraine. On l'a parlé, l'inflation, une inflation qui est déjà élevée, 5,1 % au Canada. On se rappelle que la Banque du Canada vise entre 1 et 3 % et idéalement 2 %. Donc, on a déjà une inflation élevée. On va avoir des pressions sur les prix. On vient de parler des prix du pétrole, des prix de l'essence, mais sur d'autres denrées aussi. On sent du côté des céréales, l'Ukraine, la Russie sont des gros producteurs, le Canada aussi. Mm-hmm. Mais déjà, on le voit, les prix des aliments, depuis un bon bout de temps, sont pas mal plus élevés. Donc ça, ces augmentations, ces restrictions du côté de l'offre là-bas vont affecter les prix mondiaux et devraient pouvoir affecter aussi les prix des aliments. Donc, il y a une possibilité de ça. Et puis là, je reviens encore avec une autre conversation qu'on a déjà eue. Quand on voit les prix des aliments augmenter, qu'on voit les prix de l'essence augmenter, mais il y a un effet à ça généralement, puis c'est un effet sur la confiance.
Ouais.
Et donc, il va avoir ces conséquences-là sur la confiance des consommateurs, pas si pire au Canada, est déjà plutôt faible selon certains indicateurs aux États-Unis, mais au Canada, là, on dépend encore beaucoup de la confiance avec les niveaux d'ouverture à cause de la pandémie. Omicron est maintenant en retrait. Ça aurait pu être bon pour la confiance, mais plutôt les derniers chiffres sont plutôt en baisse. Donc, probablement un effet de la hausse des prix de l'essence. Donc, cette situation-là pourrait amener des conséquences négatives. Pas désastreuses qu'on le sent, mais quand même miner un peu la confiance, donc peut-être aussi miner un peu la croissance économique.
Tu parles de confiance des consommateurs, je pense de la confiance aussi des marchés. Est-ce qu'il y a plus de points d'interrogation aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a une semaine? Déjà que les marchés étaient plutôt virevoltants dans les dernières semaines. Est-ce qu'on peut s'attendre à aussi une influence sur les cours de la bourse?
Ben oui, on le voit, pour le moment, c'est plus de la volatilité qu'une position très claire à la baisse ou à la hausse. Je pense que la bourse aujourd'hui, mercredi, est à la hausse. Et alors que les prix du pétrole montaient beaucoup, on aurait pu penser que ça aurait été l'effet contraire. Et depuis le début de la crise, c'est un peu ça qu'on observe. Même chose sur les taux d'intérêt. Il y a un effet de valeur refuge qui fait en sorte que les taux d'intérêt ont tendance, de long terme, ont tendance à baisser, notamment aux États-Unis. Mm-hmm. Mais ils viennent de remonter aussi à cause des craintes concernant l'inflation puis le pétrole. Et un autre élément qui pourrait faire en sorte que, même pour les entreprises, puis la situation des profits pourrait devenir plus problématique, mais c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup parler depuis quelques temps, c'est toute la question des chaînes d'approvisionnement. D'un point de vue global, l'économie russe et l'économie ukrainienne, c'est pas grand-chose sur l'économie totale. Mais s'il y a un petit bout de quelque chose qui est fait et qui permet de faire un bien plus important, mais qui est bloqué à cause de la Chine ou de la Russie, ça pourrait compliquer un peu la situation. On pense notamment, j'ai beaucoup entendu parler récemment du néon, beaucoup fabriqué en Ukraine, du palladium qui est beaucoup importé de la Russie. Ça fait partie de la production de puces électroniques. On est déjà en manque de puces électroniques, notamment pour le secteur automobile. Ben oui. On a vu les prix des automobiles beaucoup augmenter depuis un an. Donc, tout ça est comme reste un risque, reste quelque chose qui est relié. Et si on a des contraintes dues à une crise qui serait longue en Ukraine, mais ça pourrait compliquer encore plus des chaînes d'approvisionnement qui sont déjà dans une situation problématique.
Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on va se reparler de ça, Francis, dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous cette semaine.
C'est un plaisir.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale. Je m'appelle Laurent Therrien. Merci de nous écouter. Merci d'être là toutes les semaines. Et nous, on sera de retour avec un programme normal dès la semaine prochaine.